Il n'y a pas d'approche craft. TDD n'est pas une approche craft. DDD n'est pas une approche craft. Ça n'existe pas une approche craft. Le craft, c'est faire plus rapidement des logiciels de meilleure qualité. Quel conseil j'aurais aimé me donner quand j'ai commencé à travailler ? Je me serais dit, je pense essentiellement deux choses. Va dans les communautés, échange avec les gens et lis des livres, mais pas les livres sur les technologies. Lis les livres généralistes. L'IA est un outil que je veux utiliser comme un outil qui me permet de gagner du temps sur plein de choses. Et il y a des choses sur lesquelles je vais garder ma valeur d'humain.
Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le voit bien et que vos clients aussi.
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Colin Damon, avec qui on va échanger sur le développement craft et surtout, en fait, le développement craft à l'ère de l'intelligence artificielle. Salut Colin, comment tu vas ?
Bonsoir. Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis très content de découvrir le sujet de la discussion de ce soir et j'ai hâte de voir où ça nous mène.
Merci. J'ai participé à Lyon Craft au début du mois et dès que j'ai appris qu'il y a une opportunité d'échanger avec toi, je n'ai pas hésité. Donc du coup, c'est un plaisir pour moi que tu sois là aujourd'hui.
Plaisir partagé.
Pour ne pas en fait perdre du temps, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ?
Bien sûr. Tu veux la version longue ou la version courte ?
La version longue, je préfère savoir en fait.
Allez, eh ben, la version longue. Donc, je m'appelle Colin Damon, je suis développeur chez IDEM. Mais je fais différentes missions. J'ai bien sûr des missions où je vais être développeur à différents postes, donc développeur, lead tech, développeur, tech lead, lead tech, architecte, en fonction du besoin, du contexte de la mission. Comme ça fait une quinzaine d'années que je fais du développement de manière professionnelle. Alors professionnel, ça veut dire que je gagne ma vie avec. Globalement, c'est la définition du dictionnaire. Mais j'ai aussi des missions où je vais accompagner mes clients dans leur transformation vers le craft, c'est-à-dire des clients qui ont cette volonté de changer leur manière de travailler, qui ont vu les limites de leur fonctionnement actuel ou qui les ressentent et qui ont besoin d'un accompagnement sur ça. Des clients qui comprennent que livrer en retard des produits buggés, bah même si c'est la norme dans notre industrie, en fait, c'est pas normal et qui cherchent d'autres manières de faire, d'autres manières d'apporter de la valeur. J'accompagne mes clients pour ça. C'est des accompagnements qui sont extrêmement larges puisqu'il y a bien sûr la partie technique, il y a la partie méthodologique, il y a la partie sur les approches, mais il y a surtout une partie humaine, organisationnelle, systémique. Et donc, je vais accompagner mes clients sur tous ces aspects-là. Enfin, il y a une troisième partie de ce que je fais qui est pour les clients qui ont déjà atteint une certaine maturité sur le craft, qui sont déjà avancés mais qui ont encore besoin d'aide, qui ont encore besoin d'assistance. Je vais fournir de l'assistance donc sur un modèle un peu différent qu'un modèle d'abonnement. Pour un abonnement mensuel, les gens me consultent autant qu'ils veulent. S'ils ne m'appellent pas dans le mois, ben, moi j'ai gagné. Et s'ils m'appellent énormément, ben, c'est eux qui ont gagné, ils ont fait un bon investissement. Mais sur cette offre-là, je suis uniquement en réaction. Donc les accompagnements transformation craft sont proactifs et j'ai les accompagnements assistance, enfin l'offre assistance qui est uniquement en réactif et qui permet ben, d'avoir toujours accès à des gens d'IDEM, dont moi, pour répondre à des questions, quelles qu'elles soient.
Merci pour cette réponse. J'ai préféré la version longue, du coup là j'ai énormément appris, j'ai pris quelques notes. Du coup, pour entrer doucement dans le sujet, comment toi tu définirais le développement craft ?
Le software craftsmanship, je vais faire un tout petit peu d'histoire.
D'accord.
En 2001, un groupe de personnes se rassemble dans un hôtel un week-end et à la fin, ils créent le manifeste pour le développement agile de logiciels. Puis ces personnes rentrent chez elles avec le sentiment du travail accompli. Quelques années plus tard, ils regardent un peu ce qui se passe et ils ne reconnaissent pas du tout ce qui est devenu l'agilité, puisqu'entre-temps, le manifeste pour le développement agile de logiciels a créé l'agilité. Il y a tout un tas de choses qui se sont créées autour de ça, il y a tout un tas d'organismes qui se sont créés autour de ça, il y a tout un tas de business qui ont été créés. L'agilité est devenue une norme dans notre industrie, c'est devenu omniprésent. Mais les personnes qui l'ont créé, certaines des personnes qui l'ont créé, ne se reconnaissent pas là-dedans. Ils parlent de Agile Hangover, donc de la gueule de bois de l'agile, et ils se disent, bon, c'est en place. Aujourd'hui, l'agilité est en place et on ne pourra plus aller contre ça. Donc faisons quelque chose dans lequel on se reconnaisse. Recréons quelque chose qui serait les valeurs qu'on avait initialement. Et donc, ben, ces personnes ont créé le manifeste pour le software craftsmanship, l'artisanat du logiciel. qui est une réponse au manifeste agile et qui est tout aussi simple que le manifeste agile. Il dit rien de fou, il dit rien d'incroyable. Le manifeste pour le Sons of Craftsmanship, son sous-titre, c'est « Raising the bar ». On ne veut pas savoir où est le niveau, où est cette barre. Ça nous intéresse assez peu. Tout ce qu'on veut, c'est essayer d'élever le niveau. Que notre industrie, qui aujourd'hui est notre industrie de l'informatique, qui aujourd'hui est quand même un peu malade, où oui, c'est vraiment la norme d'être en retard, c'est la norme que ça ne marche pas. Il y a énormément d'équipes dans lesquelles les lendemains de livraison, de toute façon, c'est prévu que tout le monde soit dans une salle pour gérer les problèmes. Tellement c'est normal qu'en lendemain de livraison, il y a des problèmes. Enfin, tellement c'est la norme. Mais vraiment, 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 on peut faire du logiciel autrement. Je l'ai fait dans plein de contextes, de la start-up à la très grosse multinationale, même à l'entreprise d'État. On peut vraiment faire du logiciel autrement. Et le manifeste pour le craftsmanship, ce n'est que ça. C'est des valeurs très simples. C'est faisons du meilleur logiciel ensemble, en bonne intelligence. Mettons en place des communautés actives, mais allons vers des logiciels vraiment bien conçus, qui acceptent les changements. Le manifeste ne dit que ça. Le problème, c'est que c'est très dur à faire. Réussir à faire du logiciel comme ça, c'est vraiment très dur. Ça demande d'avoir passé la première phase d'une carrière dans laquelle la technique et les outils sont le seul problème qui peut rentrer dans notre tête et auquel on peut donner de l'espace, puisque tout l'espace est pris par ça. C'est très très dur d'être suffisamment à l'aise avec la technique pour pouvoir penser à autre chose. Une fois qu'on a passé cette phase-là, ben, il va falloir faire un choix. Est-ce que je continue d'investir vraiment sur la technique et de me spécialiser dans une technologie, ou est-ce que ben, pour résoudre les problèmes qui sont trop gros que je n'arrive pas à résoudre, je vais apprendre des approches, des méthodes qui vont permettre de découper ces problèmes en plus petits problèmes que je pourrais réussir à résoudre. Et donc à ce moment-là, ces approches et ces méthodes, on va commencer à mettre le doigt dans tout un tas de choses qui finissent en DD. Certaines s'expliquent en 30 secondes et pourtant prennent des années à maîtriser. Je pense par exemple à TDD pour Type Driven Development, Test Driven Development, le même acronyme pour deux choses, Behavior Driven Development ou Domain Driven Design. Et toutes ces choses-là sont des choses qui, sauf pour TDD, s'expliquent très simplement. On peut très rapidement avoir l'impression d'avoir compris, mais il faut énormément de pratique, énormément d'entraînement pour devenir efficient dessus. Et donc il faut réussir à prendre le temps de monter en compétences pour arriver jusqu'au stade où, ok, c'est pas l'approche qui est pas bonne et qui est pas efficace, c'est qu'en fait je ne maîtrisais pas l'approche, j'étais passé à côté de la subtilité du truc et du coup ben, j'ai eu une mauvaise conclusion. Tout ça pour dire que il n'y a pas de le craft n'a pas de méthodes qui sont directement associées au craft. Il y a des méthodes et des approches qui sont globalement admises dans la communauté, mais si demain on trouve meilleur, on utilisera ces approches et ces méthodes qui sont meilleures. TDD n'est pas une approche craft. Il n'y a pas d'approche craft. TDD n'est pas une approche craft. DDD n'est pas une approche craft. Ça n'existe pas une approche craft. Si on trouve meilleur, demain, on utilisera cette approche meilleure. Le craft, c'est faire plus rapidement des logiciels de meilleure qualité. Avec tout ce que ça implique. Des gens qui sont plus impliqués dans leur travail, parce que bah, tout le monde veut faire du bon travail. Globalement, on est plus heureux quand on va faire des choses bien, quand on va faire des choses qui rendent service, quand on se sent utile, quand on voit l'impact qu'on peut avoir sur la société rapidement. Ça a énormément de bienfaits de faire des bons logiciels. Et aujourd'hui, les logiciels, les softwares sont tellement omniprésents dans notre vie de tous les jours que l'impact qu'on a en faisant des bons logiciels est vraiment central. Il n'y a pas vraiment un humain sur cette terre qui ne dépend pas de logiciel dans sa journée. Notre réveil matin est un logiciel.
Exactement.
Dès le réveil, la première chose qu'on fait est drivée par un logiciel. Et toute la journée, on a des logiciels. Nos transports, notre énergie, notre eau, tout a besoin de logiciels. Et on a besoin de faire des bons logiciels et des logiciels meilleurs que ce qu'on fait actuellement. C'est une très longue réponse, mais est-ce qu'elle te va ?
Oui, oui, bien sûr, elle me va. Et surtout, en fait, tu as évoqué quelque chose de très intéressant parce que ces derniers jours, je vois en fait tes posts sur LinkedIn, là où c'est comme si, je ne peux pas dire clasher, mais les méthodes agiles, en fait. Donc, toi, tu dis que tu préfères tes événements craft, là où tu vas essayer d'écrire un peu de code. Est-ce que tu penses qu'on peut se passer en fait des méthodes agiles, juste partir sur des pratiques craft, on va aboutir à des meilleurs résultats?
Absolument pas. Donc j'ai une série de posts en cours qui vient d'un post que j'ai fait ce week-end. Ce week-end, j'ai dû poster quelque chose qui dit « Lyoncraft a réveillé un ancien débat sur pourquoi il n'y a pas de développeurs qui vont au Confagile. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un de nos speakers, qui est un habitué des qui est speaker en Confagile très souvent, et qui a fait un post sur ça, suite à son talk, il a dit voilà, et le débat était vraiment intéressant en commentaire. Et donc j'ai débattu un peu en commentaire sur son post, puis moi j'ai fait mon post. Et mon post, en fait, l'introduction dit ça, et derrière je dis pas du tout ça, je suis pas du tout en train de dire voilà pourquoi ils y vont pas, etc. Pour moi c'est un sujet qui est passé. Il y a quelques années, j'ai fait partie d'un groupe d'irréductible qui a essayé de gré ou de force de mettre de la tech dans les Confagiles. Mmh. On a arrêté parce qu'on a fini par accepter, sans aucun problème et sans aucune animosité, que la communauté agile était intéressée par d'autres choses. Et mon poste, en fait, initial, disait juste « Moi, je ne ferai plus d'efforts pour aller dans les Confagiles parce que je me suis fait une idée. Par contre, maintenant, si vous êtes orga d'une Confagile et que vous voulez de la tech, venez me voir. » C'était ça mon poste. Mais en fait, ça a créé un très très gros débat sur pourquoi les devs ne vont plus dans les Confagiles. D'accord. Ce qui m'a donné l'idée de faire une série de posts dans laquelle je donne certaines raisons de pourquoi je ne vais plus dans les Confagiles. C'est aussi pour m'amuser, hein, évidemment, c'est un troll gentil. Mais évidemment qu'on a besoin des approches agiles. Évidemment que l'agile, c'est bien. Extreme Programming a bien plus de 20 ans, le premier livre, et il y avait déjà presque tout dedans. C'était déjà tout bon. Ken Beck est à 20 ans d'avance, 25 ans d'avance. Enfin, avait à l'époque. On a besoin de ces approches itératives. On a besoin de construire par petites étapes. On a besoin de méthodes pour respecter la loi de Pareto des 20% d'efforts qui produisent les 80% de valeur. On a besoin d'apprendre, de comprendre, de partager, d'échanger avec toutes les personnes qui sont essentielles pour le logiciel. Évidemment qu'on a besoin de ça. Et évidemment que c'est ça, l'agile. Maintenant, c'est l'agile du manifeste, c'est l'agile des fondateurs du mouvement, mais ce n'est pas l'agile que je retrouve, moi, dans les communautés quand j'y participe. Et ce n'est pas dans cet agile-là que je me reconnais. Donc, le problème, c'est que c'est cet agile-là, celui qui est promu par les communautés, qui est celui qui est considéré comme l'agile d'aujourd'hui. Et du coup, j'utilise pas ce terme-là, j'utilise pas le terme d'agilité pour ne pas justement rentrer là-dedans. Je vais parler de développement itératif, de co-construction, de réponse au changement. Répondre au changement, c'est essentiel. Et oui, on a besoin des approches agiles, mais on n'a pas besoin des estimations. D'ailleurs, spoiler alerte, il n'y a pas d'estimation dans Scrum. Scrum a enlevé les estimations du Scrum Guide il y a 20 ans, quelque chose comme ça, 15 ans, 20 ans, j'ai pas le chiffre en tête. Kanban n'a jamais eu d'estimation. XP a des estimations, des story points. La personne qui l'a créé a un très beau article de blog qui dit « Si c'est vraiment moi qui ai créé ça, je suis désolé. »
Wow. Alors qu'il y a énormément d'ateliers là actuellement qu'on perd énormément du temps pour pouvoir estimer, chiffrer. Alors qu'il y a en fait des temps là où je me dis le temps qu'on perd en fait à faire ces chiffrages et tout ça, on aurait dû avancer en fait sur un autre sujet.
Si ce n'était que ça. Si les estimations ne faisaient que du mal sur le temps passé dans les ateliers d'estimation, très franchement, on s'en sortirait bien. Maintenant, les estimations sont beaucoup plus impactantes, beaucoup plus profondes que ça. C'est un trade-off. Accepter de faire des estimations, c'est accepter de perdre la réponse aux besoins, la vélocité et la qualité. Et je m'explique. En fait,
oui.
À partir du moment où on fait une estimation, consciemment ou inconsciemment, on va prendre un engagement.
Exactement.
J'estime pour 15 jours, parce que apparemment, dans Scrum, c'est ce qu'il faut faire. Je dois estimer pour 15 jours de travail. Donc, quand je commence à estimer ce que je vais faire pour les 15 prochains jours, il y a des choses sur lesquelles j'ai absolument aucune information. Quel que soit le travail de refinement qui a été fait en avance, les hypothèses qui ont été prises ne peuvent qu'être fausses. Personne ne peut voir correctement, aussi finement, autant dans les détails, à 15 jours. Donc, quand je fais mon estimation, je fais un effort pour faire cette estimation. Donc, je vais rentrer déjà dans un biais des coûts irrécupérables. À partir du moment où j'ai fait un effort pour faire l'estimation, j'ai fait cet effort et je vais vouloir faire le truc que j'ai estimé. Ensuite, je me suis engagé. Je suis professionnel. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je vais vouloir le faire comme je me suis engagé. Le problème de ça, c'est que très souvent, au lendemain du jour où j'ai fait l'estimation, on va se rendre compte que le truc sur lequel je me suis engagé, consciemment ou inconsciemment, d'accord, oui, une estimation ne doit pas être un engagement, etc. Factuellement, on s'engage un peu. Le lendemain d'avoir pris cet engagement, je vais me rendre compte, il y a un signe qui va me dire que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Maintenant, à partir du moment où j'ai pris un engagement, ça va être beaucoup plus dur de voir ce signe et ça va être beaucoup plus dur d'aller contre. de démonter l'engagement que j'ai pris pour dire, OK, on va aller sur ce qu'il fallait faire initialement. Donc, petit à petit, on va perdre la réponse aux besoins, puisqu'on n'aura plus la capacité à s'adapter au changement suffisamment vite. 15 jours, c'est trop long.
Exactement.
C'est beaucoup trop long.
Exactement.
Ensuite, j'ai dit, on perd la vélocité. On perd la vélocité parce que la feature la plus rapide à faire, c'est celle qu'on ne fait pas. Et comment on ne fait pas une feature ? Ben, on est juste avant et on se dit, est-ce que vraiment on en a besoin ? Ben non, on n'en a pas besoin. Donc, on ne la fait pas. Maintenant, si on l'a chiffré, si on l'a mis dans le sprint, si on s'est engagé à la faire, ben on va de la même manière dire, je la fais quand même. Okay. Dans le temps, on va perdre la vélocité, comme ça, en faisant des features où on n'est pas sûr de la valeur. Mais on le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'on s'est engagé.
Exactement.
Donc, on va rentrer dans un processus où on n'arrive pas à aller assez vite, on n'arrive pas à produire de la valeur, il y a de la pression qui va arriver de différents endroits. Cette pression, elle va finir par fuiter sur l'équipe qui va commencer à faire des heures, à travailler plus, à puiser dans ses réserves. Et à un moment, en puisant dans ses réserves, quelle va être une des premières choses dans une équipe qui fonctionne de cette manière qui va en souffrir ? C'est la qualité. Parce que si l'équipe fonctionne de cette manière et n'a pas su mettre un stop avant, la première chose qui va souffrir, c'est la qualité. Donc dans le temps, la qualité du code va se dégrader, on va être de plus en plus lent, et donc on va rentrer dans un cercle de renforcement négatif. Donc les estimations, oui, elles nous prennent du temps en atelier, mais sincèrement, si c'était que ça, ça m'irait.
D'accord, d'accord.
Réponse longue, encore une fois, ça répond.
En fait, j'aime bien les réponses longues, mais comme on a teasé, en fait, qu'on va parler de l'intelligence artificielle, on va avancer. Si ça ne tenait qu'à moi, on pouvait continuer parce que j'apprends énormément. Juste, est-ce que tu peux nous dire brièvement, en fait, quels sont tes débuts avec le développement en général et en particulier les pratiques craft, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à t'y intéresser de près?
J'étais dans une phase... Donc moi, je ne suis pas quelqu'un de brillant. J'ai toujours été en échec scolaire, mais j'ai toujours aimé le développement. Donc je suis arrivé au développement parce que j'ai été malade étant enfant et que les quelques heures où je pouvais me lever, ben, j'utilisais l'ordinateur qui était là pour apprendre le HTML en autodidacte. Mais je ne suis pas quelqu'un de brillant. Donc quand j'ai voulu me lancer dans le développement, je suis têtu par contre. Et ben, j'ai commencé à travailler plus que tout le monde. J'ai fait plus d'heures que tout le monde. Parce que ben, je devais rattraper mais assez naturellement et ça ne me posait pas de problème et je peux travailler beaucoup donc je travaillais beaucoup mais même en travaillant beaucoup
oui.
Ça ne suffisait pas, je livrais des choses qui étaient buggées, qui n'allaient pas et je comprenais très très bien à quoi servaient les logiciels que je faisais, l'importance qu'ils avaient, en quoi ils étaient essentiels pour les gens et je n'étais pas satisfait de ce que je faisais et donc j'ai commencé à chercher des méthodes pour gagner du temps, pour aller plus vite. Parce que je ne pouvais pas travailler plus. Ce n'était pas possible. À un moment, les journées ont une durée limitée. Et je suis rentré là-dedans en m'intéressant à des méthodes qui me permettent d'avoir une meilleure vélocité. Et toute ma pratique du craft, donc je ne savais pas que le craftsmanship existait, je ne savais pas que le TDD existait, je n'avais pas les mots-clés, je n'avais pas ça du tout, je ne savais pas. J'ai plus ou moins redécouvert par moi-même, puis quand j'ai découvert des gens bien plus brillants que moi qui ont écrit des choses bien meilleures, j'ai dit oh, c'est très très bien ce qu'ils ont dit, mais j'ai découvert ça par moi-même, puis j'ai découvert que le craft existait, qu'il y a des communautés qui existaient, qu'il y a des livres qui existaient, j'ai dévoré tout ça et ma pratique du craft initialement c'est pour produire plus de valeur, c'est mon objectif initial. Maintenant dans les communautés craft, pour avoir discuté beaucoup avec les gens qui participent, on a toutes et tous des raisons différentes d'être entré là-dedans, vraiment très différentes. Cette raison de vouloir une meilleure vélocité et vouloir apporter plus de valeur, c'est la mienne, elle est personnelle. Il y a des gens qui sont des habitués du craft, qui sont là parce qu'ils cherchent un moyen d'avoir une preuve mathématique que ce qu'ils font est correct. C'est leur démarche intellectuelle. Comment est-ce que je peux avoir une preuve que mon traitement est correct ? Ce fameux langage logique, etc. On a des raisons différentes, mais pourtant on se retrouve sur plein de choses. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, on est d'accord sur nos désaccords.
Justement, en fait, par rapport aux choses dont on est d'accord ou pas, en fait, moi personnellement, en fait, quand j'avais commencé à m'intéresser aux pratiques craft, j'étais beaucoup plus en fait focus sur le TDD, bon, pas le type, mais plutôt le test driven development, les principes solides, le clean code et tout ça. Il y avait d'autres concepts dont j'étais, comment dire, conscient de leur existence. Mais je ne travaillais pas beaucoup, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a des pratiques qui sont plus importantes que d'autres ou bien les pratiques sont toutes au même niveau ?
Oui, celles qui te plaisent, celles qui t'intéressent sont plus importantes que d'autres. puisque pour faire tout ça, c'est un investissement personnel, c'est un choix personnel, et il faut continuer à rester motivé. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et donc pour rester motivé, il faut que tu fasses des choses qui t'intéressent. Et donc ce qui est important à creuser en premier, c'est ce qui te fait envie, c'est ce que tu as envie de regarder, c'est ce que tu considères comme un loisir, c'est ce que tu considères comme du temps pour toi, où toi tu te sens mieux en sortant de là. Il faut surtout pas que ce soit un sacerdoce. C'est quelque chose qui est trop dur, qui est trop vaste, qui est trop grand pour se l'imposer à soi-même. Donc les pratiques les plus importantes, c'est celles qui te font envie, celles qui t'amusent. Si tu as envie de monter en compétence en décompilant des Amigas, ce que font certains membres de la communauté, go, achète-toi des Amigas et regarde comment ça marche. Si c'est ça qui t'éclate, ben oui, ça te permettra de monter en compétence. Pour moi, c'est ça le plus important. Après, il y a certaines... on parle de TDD et de DDD qui sont quand même bien admis. Le problème de DDD, c'est que c'est colossal. Voilà. Donc, faut pas commencer par ça. C'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Ça décourage. C'est une montagne. C'est un outil. C'est tout un tas d'outils incroyables, mais c'est très dur à appréhender.
D'accord. Par rapport en fait à ce que tu viens de dire, est-ce que tu as des conseils? Bon, je pense que tu as déjà commencé à donner des conseils particuliers à ceux qui veulent commencer, le fait en fait de commencer par ce qu'on aime et puis essayer d'avancer progressivement. Tout au début, en fait, tu as dit que tu accompagnais en fait les équipes et tout ça. Comment en fait tu fais, comment dire ça, faire passer une équipe par exemple qui était habituée à des anciennes méthodes, les convaincre en fait à passer aux méthodes aux pratiques craft, parce qu'il y a généralement en fait dans l'équipe d'autres sont plus motivés par rapport à ça, d'autres ne le sont pas, donc il y a en fait des réticences. Je sais pas comment tu arrives à gérer ça durant tes...
Je vais pas pouvoir l'expliquer dans le temps qui est imparti, et puis il faut qu'on dorme sur les 4 prochains jours je crois, puisque c'est à peu près le temps qu'il me faudrait pour l'expliquer. Je vais juste donner une métrique que j'utilise beaucoup, enfin un indicateur que j'utilise beaucoup. Quand on veut apporter un changement dans une équipe, dans un groupe, je considère qu'il y a 10% qui se rendent compte, c'est basé sur rien ces chiffres, mais c'est pour garder cette image mentale, 10% qui sont contre le changement qu'on veut apporter, ou la personne qui l'apporte, ou le fait de changer, mais qui vont être avec véhémence contre, 80% qui sont neutres, et qui vont surtout regarder par rapport à leur sphère d'influence, qui va dans un sens, qui va dans l'autre, et 10% qui seront pour le changement. J'ai fait une erreur plusieurs fois dans ma carrière en essayant d'apporter un changement, de me concentrer sur les 10% contre. C'est facile de trouver un qui est pour et qui est contre. C'est très très simple. Je me suis dit, je vais convaincre les 10% contre et ça remontera par ces 10% contre. Ça ne marche pas. Il ne faut pas faire ça. C'est une stratégie qui est globalement vouée à l'échec. Puisque on s'occupe pas des gens qui étaient pour, donc eux, ils vont être démotivés, etc. Et les gens contre, en fait, ils sont peut-être contre pas du tout contre des choses sur lesquelles on ne pourra jamais rien faire. Pour apporter un changement, je travaille avec les gens qui sont pour, qui sont promoteurs. Je travaille avec eux. Je reste à l'écoute des gens qui étaient neutres, de voir quand ils commencent à se dire « Attends, ce qu'ils racontent, c'est pas mal. » Et dès que j'ai un signe de ça, hop, je les embarque avec moi. Et les gens qui sont contre, si d'eux-mêmes, ils viennent vers moi avec grand plaisir, s'ils restent contre, avec véhémence, là on rentre dans d'autres choses. Mais voilà, pour apporter un changement. Après, comment je fais pour convaincre des bien fondés de ces méthodes, etc. Ça, c'est des sujets beaucoup trop vastes.
D'accord, merci pour ta réponse. Du coup, l'intelligence artificielle, c'est un game changer ou bien un buzz du moment? Parce que là, actuellement, on ne peut s'empêcher en fait, de voir l'application croissante, surtout en fait, de l'IA générative, dans le domaine de l'IT. Comment vois-tu en fait l'avenir du développement craft à l'ère de l'intelligence artificielle?
L'intelligence artificielle pour les devs, pour moi, va prendre encore plus de valeur et va être encore plus prégnante avec des approches centrées sur le métier, les approches qui sont plébiscitées par le craft. Puisque pour moi, l'intelligence artificielle a une efficacité redoutable sur tout ce qui est, on va dire, adaptation, adapteur, sur tout ce qui est lié au framework, à la technologie. C'est très, 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 très fort sur ça. Par contre, son efficacité sur la partie métier est beaucoup plus relative. Oui, l'IA va nous guider, nous donner des idées, mais trouver la bonne solution, l'IA, elle ne saura pas faire. Donc, sur la partie métier, ça va rester un énorme différenciant pour les devs. Et sur la partie adaptation, qui n'est pas la partie la plus marrante. Très bien, plus lié à mon fait, plus je suis content. J'ai pas envie de savoir comment se fait un mapping JPA. Genre vraiment, ça m'intéresse pas. J'en ai marre. À chaque fois, ça fait pas ce que je veux. Les requêtes SQL avec des projections, pourquoi ça fait pas ce que je veux? Je veux que l'IA me le fasse, ça. Je veux lui dire, vas-y, génère-moi un truc qui fait ça et qu'elle me le fasse. Et si j'ai repassé dessus, derrière, un peu pour optimiser, je suis tout à fait OK avec ça. Si j'ai gagné une demi-heure de lecture de doc, je suis tout à fait OK avec ça. Et donc oui, l'IA va nous aider. L'IA nous aide énormément. Déjà aujourd'hui, moi j'utilise l'IA pour plein de choses dans mon quotidien de dev. C'est un outil qui est extrêmement puissant. Je connais très très mal le monde des échecs, mais j'ai eu un collègue qui était bien classé aux échecs pendant longtemps et qui m'expliquait qu'en fait il y a des compétitions, alors c'est à vérifier, d'échecs avec IA plus humain, c'est-à-dire que l'IA donne des options et l'humain lui dit non mais celle-là tu peux tout de suite l'enlever. Alors ça existe peut-être plus avec la puissance de calcul qu'on a, mais il y a probablement eu un temps dans l'informatique où il y avait cette limite et où on disait non mais enlève cette branche, c'est pas la peine de les explorer, ces branches sont absurdes parce qu'un humain peut le voir, là où un ordinateur aura plus de mal. Et donc moi je vois vraiment ça comme ça aujourd'hui. Le dev augmenté par l'IA va pouvoir produire beaucoup plus de valeur. Par contre, ça continue d'être des compétences de dev. Ken Beck, toujours, quand ChatGPT est sorti, a tweeté « Ok, l'IA est sortie. » Il faudra retrouver le tweet exact, mais d'accord. L'IA est sortie. 90% de mes compétences sont devenues inutiles. Les 10% restants viennent de voir leur valeur décuplée. Il est temps de réévaluer. Et oui, c'est vraiment ça que je ressens. Oui, il y a beaucoup de choses sur nos connaissances des frameworks, etc. Les IA sont meilleures que nous. L'IA, c'est mieux comment faire un câblage avec Spring que nous, même à un expert Spring. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, est-ce que l'IA arrivera mieux à comprendre le besoin d'un client, comprendre la subtilité du besoin, proposer des solutions, itérer sur des solutions, comprendre que nos langages naturels, ils sont pas du tout explicite. Il y a beaucoup de choses qu'il faut interpréter. Non, une IA ne pourra pas faire ça et un humain, en tout cas en l'état actuel de l'IA, restera bien meilleur pour ça. Donc, la fin du métier de dev, j'y crois pas. En tout cas, pas du tout pour tout de suite. Une transformation du métier de dev, oui, très probablement, mais c'est notre quotidien. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai l'impression que les transformations, ça a été toujours. Quand j'ai commencé à faire du dev, on ne parlait pas de single page application et d'applications qui font de la logique dans le front. Aujourd'hui, on imagine difficilement faire autre chose. Et pourtant, c'est un gros changement de paradigme, de manière de travailler. Donc oui, c'est un nouveau changement, mais en tant que dev, on est bon pour gérer les changements, donc ça devrait bien se passer.
Merci pour cette réponse. Du coup, en fait, il y a énormément d'assistants. Il y a, si on prend le cas de GitHub Copilot ou bien Amazon Code Whisper, qu'est-ce que tu penses en fait de leur utilisation au quotidien pour un développeur? Parce qu'il y a là actuellement, on parlait tout à l'heure du TDD, Test Driven Development. Je peux juste venir parler à l'assistant, lui dire voilà ce que je veux faire. En fait, il va faire tout à ma place. Je peux même pas en fait savoir comment le TDD marche et tout cela en fait. Est-ce que tu penses que ça, c'est en train de remettre en question certaines pratiques? Parce que quelqu'un qui ne les connaît pas, en fait, peut facilement faire mieux que peut-être quelqu'un qui connaissait en fait ces pratiques. Je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ces assistants.
Je ne l'ai pas assez utilisé au quotidien pour une raison très simple. Aujourd'hui, je suis chez des clients grands comptes qui ont des contraintes légales qui font qu'il est hors de question d'utiliser ces outils-là au quotidien avec nos bases de code. Pour ce que j'ai joué avec moi de mon côté, pour l'instant, je ne suis pas inquiété du tout. Le code qui est produit est une catastrophe. La pratique de TDD, de ChatGPT ou Copilot n'a rien de TDD, c'est du test first. La raison est extrêmement simple, c'est que l'Internet confond test first et TDD. Et donc évidemment que l'IA ayant été entraînée là-dessus va faire la même erreur, va avoir des tests qui ne guident absolument pas, qui ne permettent pas de faire émerger un design. C'est normal, c'est toute la subtilité de la pratique, c'est ça qui prend des années. Et ben, l'IA était entraînée sur ça. Comme plein de choses, l'IA est forcément biaisée par nature. Ce n'est que quelque chose qui complète la phrase qu'on a donnée. Il faut garder ça en tête. Aujourd'hui, une IA générative ne fait que compléter ce qu'on a dit. Donc aujourd'hui, je ne suis pas inquiet.
D'accord. Et en fait, tu parlais de L'IA a été entraînée en fait sur des mauvaises données par rapport à la confusion entre test-first et test-driven development.
L'IA a été entraînée sur l'état actuel de notre industrie. Et notre industrie est malade. J'en reste assez persuadé. Pourquoi notre industrie est malade et pourquoi c'est un problème qui est compliqué ? J'ai plus la stat actuelle, mais il y a quelques années, tous les 3 ans, on doublait le nombre de devs sur le marché. Okay ? Tous les 3 ans, on formait autant de devs que ce qu'il y avait sur le marché. Une autre manière de le dire, c'est que la moitié des devs sont juniors. On est d'accord ? Moins de 3 ans d'XP. Donc des juniors qui vont être formés, mentorés par des gens tout aussi juniors. Eux-mêmes formés, mentorés par des gens tout aussi juniors. Comme c'est des cycles de 3 ans, bah on est très très vite sur une 5e génération de juniors, 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 juniors. Donc notre industrie, elle est dans un état qui s'explique en partie par ça. C'est pas une idée qui est à moi du tout. C'est une idée à Ken Beck. Encore une fois, je l'aurais beaucoup cité. J'ai eu la chance de lui parler dans les couloirs de DDD Europe. Il dit, voilà, la mauvaise nouvelle, donc partant de ce constat, la mauvaise nouvelle avec les juniors, c'est que they don't know shit. Ils savent rien. La bonne nouvelle, c'est que c'est sur eux qu'il faut se concentrer et que c'est pas la peine d'essayer de faire changer d'avis les vieux briscards comme moi. Lui, il disait ça. Il disait, c'est pas la peine d'essayer de faire changer d'avis les vieux briscards comme moi. C'est plus facile de se concentrer sur les jeunes. Et moi, je le vois au quotidien. J'ai la chance d'avoir des gens très juniors, sortis de reconversion, sortis d'école, qui sont arrivés directement dans des équipes avec des bonnes pratiques, des bonnes manières de faire. Ces gens sont devenus en quelques mois des développeuses et développeurs beaucoup plus accomplis que la plupart des devs que j'ai croisés dans mes missions qui avaient 10 ans d'XP, qui ont fait 10 fois la même année. Donc c'est tout à fait possible d'accompagner les jeunes en sortie d'école, de les amener sur ces méthodes. C'est des choses qui sont même plus faciles à apprendre quand on n'a pas déjà une autre manière de faire. Moi, il y a des devs dans mes équipes. Pour eux, c'est normal de jamais démarrer l'app en local. Et la première fois qu'ils voient, ils pairent avec quelqu'un et qu'ils n'ont pas l'habitude de pairer, puis cette personne démarre l'application et il y a ce moment de « Ah, mais tu démarres l'app sur ton poste ? Pourquoi tu fais ça ?» D'une app qui est en prod, d'une app importante. En fait, ils ont tellement pris l'habitude que c'était normal d'avoir un feedback par des tests qu'ils voyaient, ils ne savaient pas démarrer l'appli sur leur poste. Ils étaient tout à fait OK avec ça et sereins. Et puis leur code était bien. Donc oui, on peut faire mieux, on doit faire mieux encore une fois. Mais je t'ai coupé, je suis désolé, vas-y.
Je t'en prie, en fait, je disais en fait que comme l'IA a été en fait entraînée sur des mauvaises données, entre guillemets, si on peut le dire, si je prends le cas de OpenAI en fait, donc en fait ils ont cette ouverture, genre ils t'offrent en fait comme une version de ChatGPT que toi-même tu peux réentraîner avec tes propres données en fait. Est-ce que cela pourrait par exemple améliorer, comment on dit ça, le code que ChatGPT génère à travers le test-driven development, ou bien tu penses que même en l'entraînant avec nos propres données, il sera toujours biaisé ?
Ça, j'y crois beaucoup. Et je pense que oui, l'avenir va là-dessus. Et je suis désolé, hein, je suis un peu en boucle, mais il y a une IA qui a été entraînée sur les écrits de Ken Beck et qui apparemment génère des très très bonnes réponses. Alors, je n'ai pas joué avec, mais apparemment, Ken Beck a suffisamment écrit dans sa vie, lui, pour pouvoir entraîner une IA. Et apparemment, ses réponses, elles sont vraiment bien.
D'accord, merci. Du coup, en fait, pour quelqu'un qui veut apprendre les pratiques craft là actuellement, est-ce que tu lui conseillerais de partir sur une approche classique ou bien il y a des modifications qu'il faudrait faire pour tenir compte en fait de l'intelligence artificielle ?
Alors, j'ai pas répondu tout à l'heure à ça, à quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut aller dans le craft ? J'ai pas envie de me positionner de manière assez ferme sur ça, donc quel conseil j'aurais aimé me donner à moi d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans quand j'ai commencé à travailler? J'ai commencé à travailler à 15 ans, c'est terrible. Ah, c'est le coup dur ça. 2009, ah, c'est le coup dur. Si j'avais pu, je me serais dit, je pense essentiellement deux choses. Participe va dans les communautés, échange avec les gens. Et au Colin de 2009 qui parlait peu et qui était très timide, ça aurait été un sacré effort, mais je lui aurais dit ça. Et je lui aurais dit, lis des livres, mais pas les livres sur les technologies. Lis les livres généralistes qui ont été écrits par les géantes et les gens qui nous ont précédés. Il y a des écrits phénoménaux qui méritent d'être lus, d'être étudiés, d'être lus, qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons, qui sont là depuis 20 ans pour certains. Et va dans les communautés. Si tu ne sais pas quel livre lire, va dans les communautés. Reste après et demande. Oui, moi j'aimerais, j'en suis là. j'aimerais aller sur ça, quel livre je dois lire. Et les gens qui ont lu tous les livres vont te dire, si tu veux creuser ce sujet-là et que tu aimes bien ce style d'écriture-là, je te conseille tel livre. Et comme ça, tu en lis un seul au lieu de 15. Allez dans les communautés, quand vous pouvez, quand vous avez les moyens financiers, allez dans les conférences, quand on vous donne les moyens financiers, allez en conférence. Pareil, vous pouvez commencer par des conférences généralistes pour voir comment fonctionne une conférence, et après, aller dans des conférences de plus en plus spécialisées. Quand vous en avez l'occasion, c'est incroyable. Tu parlais de Lyon Craft tout à l'heure, c'est ce qu'on a voulu recréer avec Lyon Craft, nous, et rendre le craft accessible à Lyon. C'est pour ça qu'on a créé Lyon Craft. On est très content de ce que c'est devenu aujourd'hui. Sincèrement, on est... Donc j'en parlais à la soirée de retour de Lyon Craft et les larmes sont un peu montées. On a une communauté, je pense pas qu'on mérite d'avoir une communauté aussi belle sur le craft et sur Lyon. Tout le monde a répondu présent à tout ce qu'on a fait et tout le monde a été trop cool tout le temps. Les gens ont... Je propose à des gens qui sont jamais montés sur scène, hey, tu montes sur scène dans une semaine et demie pour faire un talk que t'as pas préparé? Ouais. Parce que les gens nous font ce niveau de confiance. Donc c'est vraiment incroyable. Je reprenais mes posts LinkedIn. J'ai écrit un post. On a annoncé 4 sessions à Lyon Craft. On a vendu 90 places. C'est que la deuxième édition. Hein. C'est fou. C'est complètement fou. Donc, allez dans les communautés. C'est des communautés qui sont vraiment belles, qui sont composées de personnes que vous avez envie de rencontrer, avec qui vous avez envie d'échanger. Donc si vous voulez monter là-dedans, trouvez un groupe craft proche de chez vous, trouvez un groupe craft en ligne, allez dans un. Si votre première expérience ne se passe pas bien, vous ne braquez pas, allez dans un autre, revenez à une autre session, restez après, parlez aux gens. C'est des gens passionnés et passionnants qui vont dans ces communautés.
D'accord. Donc du coup, si j'essaye un peu en fait, de résumer ce que tu as dit, bon, peut-être je pourrais ne pas avoir bien compris. Ça veut dire qu'il faudrait beaucoup plus partir, même s'il y a l'intelligence artificielle, ça serait mieux en fait, de partir beaucoup plus sur les approches classiques.
L'intelligence artificielle, elle est artificielle et oui, on a besoin des IA. Oui, les IA vont nous aider. Oui, les IA vont nous rendre service. Mais nous sommes des êtres de carbone et des êtres organiques et on a besoin d'autre chose. On a besoin d'émulsions, on a besoin d'être challengé, on a besoin d'avoir des choses intéressantes auxquelles réfléchir. Est-ce que l'IA va nous remplacer, etc. J'en sais rien et je m'en fous un peu, pour être tout à fait honnête. Moi, je veux faire des choses qui m'intéressent, qui me font vibrer, que j'ai envie de faire, qui sont intellectuellement intéressantes, sur lesquelles j'ai de la valeur. Si l'IA me remplace sur une partie des choses sur lesquelles je n'ai pas énormément de valeur, je suis très content. Maintenant, je veux faire des choses qui sont intéressantes pour moi et avoir des raisons de me lever le matin, d'avoir un impact, de rester motivé. Donc l'intelligence artificielle c'est bien, l'intelligence non artificielle c'est très bien aussi.
Du coup, en fait, bon, je sais qu'on a vraiment beaucoup tourné autour de cette question. Est-ce qu'il faudrait prendre en considération, ou bien je vais directement aller apprendre les pratiques craft, donc fait abstraction de tout ce qui est intelligence artificielle, parce qu'il y a en fait énormément d'outils qui peuvent, je pense, en fait accélérer notre apprentissage du craft là actuellement, ou bien ça serait mieux juste de commencer et puis après gérer tout ce qui est intelligence artificielle. Donc bon, en t'écoutant, en fait, ton avis, il est un peu à 50-50% par rapport à l'intelligence artificielle. Donc...
Mon avis, c'est vraiment de se faire plaisir. C'est un marathon, c'est sur le long terme, on est humain. Alors c'est mon avis de là tout de suite, dans mon état d'esprit, de là tout de suite, dans ma fragilité présente, dans mon vécu présent. Mon vécu présent, il est vraiment sur... C'est important de faire des choses qui nous plaisent. C'est important de faire des choses qu'on aime. C'est important pour durer et pour être bien dans sa vie. Et être bien dans sa vie, c'est essentiel. C'est en étant bien dans sa vie que tout ce qu'on fait nous plaira. Donc, j'ai pas de... L'IA n'est qu'un outil. C'est un outil incroyable, c'est un outil qui est très puissant, mais l'IA est un outil. Nos IDE sont un outil. Moi, j'ai commencé à coder, on n'avait pas d'IDE. quand les IDE sont arrivés, j'ai utilisé un IDE parce que c'est vachement mieux que Notepad++ là où j'ai appris à coder. Et j'étais très content avec un IDE. L'IA est un nouvel outil. Je vais ajouter ce nouvel outil à ma boîte à outils avec ses forces et ses faiblesses. Je vais apprendre à l'utiliser. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus dur à apprendre à utiliser que n'importe lequel des autres outils que j'ai appris à utiliser de ma vie parce que celui-là, en plus, il me comprend assez bien. Et c'est pas des trucs abscons. Il y a des gens qui arrivent à coder sur Emacs, je veux dire. On va arriver à faire des prompts pour ChatGPT, j'ai relativement confiance. Et j'aime cette bise aux utilisatrices et utilisateurs de Emacs, évidemment. On vous adore tous les trois.
D'accord. Merci, en fait. Donc, du coup, en fait, il y a... Des gens, en fait, sont vraiment divisés. Il y a cette partie qui est pro, il y a cette, une partie qui est contre IA. On parlait en fait des pratiques craft, dont on avait parlé du TDD, du BDD, il y a aussi le DDD qu'on avait parlé. Il y a des gens en fait qui vont loin, qui pensent qu'il y aura un autre acronyme qui se termine par DD, qui va rejoindre la famille. Ils parlent en fait de AI Driven Development. Qu'est-ce que toi tu en penses ?
Oui, c'est possible, c'est possible. Il y a un nouvel acronyme d'ailleurs qui va voir le jour, le talk va être annoncé dans pas très longtemps, qui finit en DD, c'est le ZCDD. Je tease un peu un talk pour le zéro commentaire driven development. Voilà, je mets une collègue dans la sauce, mais ça me fait toujours plaisir.
D'accord.
Oui, du développement dirigé par l'IA, bien sûr. Maintenant, l'IA qui permet à tous les gens qui sortent d'école de commerce et qui veulent monter une start-up de coder le produit de leur start-up sans aucune compétence technique en deux nuits, ben non, enfin... Ça reste une compétence. Oui, bien sûr, dans ces gens-là, il y en a qui sont éminemment brillants et qui vont y arriver et qui vont probablement faire du biais du survivant. Mais le métier de dev est éminemment complexe, est éminemment lié aux relations humaines, est éminemment lié à la capacité à comprendre les humains, est éminemment lié à la capacité à communiquer, est éminemment lié à tout un tas de choses sur lesquelles les humains sont beaucoup plus forts que les ordinateurs. Les ordinateurs sont beaucoup plus forts que nous sur plein de choses. Ils ne font pas d'erreurs sur les tâches répétitives. Ils peuvent refaire la même chose plein de fois sans jamais se tromper. Par contre, prendre une décision sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ben, c'est pas leur point fort. Et les applications que je veux faire, moi, et les applications sur lesquelles je veux coder, c'est des applications qui n'ont pas été faites. Si elles ont déjà été faites, j'apporte pas de valeur. Mon objectif, c'est d'apporter de la valeur, de rendre service à des gens. Si c'est déjà fait, ben, prends ce qui est déjà fait. Et ça ira très bien. Donc, ouais, oui, l'IA va changer notre manière de travailler, mais comme Spring l'a fait en son temps, peut-être plus que Spring. Je prends Spring en exemple parce que je suis dans le monde Java, mais moi j'ai codé avant Spring, j'ai codé avec Spring. Bah, on code pas de la même manière, pas avec Spring Boot. Évidemment, l'IA a pas du tout un impact qui est comparable. Je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Maintenant, bah, y a tout un tas de... Il y a tout un tas de questions sociétales autour de l'IA qui aujourd'hui n'ont pas vraiment de réponse, qui ne sont pas simples. Toutes les ressources matérielles qui sont nécessaires pour faire tourner ces IA, est-ce qu'on en a assez ? Est-ce que les mettre dans l'IA, ça ne va pas poser un gros problème ailleurs ? Est-ce que le changement des prix de l'énergie, des matières premières. J'en sais rien, je ne suis pas du tout renseigné là-dessus, j'ai pas les informations. C'est juste des réflexions de me dire, oui, l'IA, c'est un très bel outil, maintenant ça prend des ressources, on le sait, c'est... voilà. Est-ce que c'est magique ? Aujourd'hui, non. Dans 5 ans, peut-être, mais les gens qui me disent que l'IA sera magique dans 5 ans et remplacera X% des métiers dans 5 ans, c'est des gens qui vendent les cartes qui font tourner les IA ou qui ont les sociétés qui fabriquent les IA. Donc très bien, moi j'attends de voir, j'espère vivre encore 5 ans et je verrai dans 5 ans.
En fait, tu parlais tout à l'heure de l'aspect métier qui ne pourrait pas être en fait remplacé par de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a une entreprise qui s'appelle Devin AI qui a lancé le premier ingénieur logiciel autonome en fait. Donc il n'a besoin de rien en fait, c'est comme un développeur. Tu lui dis ton problème, en fait, il se lance, il écrit le code, s'il a des erreurs, il corrige. En fait, c'est automatiquement en fait, l'image d'un vrai développeur.
T'as réussi à lui dire ton problème. Moi, mes utilisateurs, ils n'arrivent pas à me dire leur problème. Mes utilisateurs, ils arrivent, ils ont une solution. Et je vais chercher leur problème. Et donc, mon travail, c'est de réussir à savoir quel est le problème et de trouver une solution à ce problème. Le sujet de l'IA, pour moi, en l'état de ma connaissance actuelle, c'est quelque chose qui va nous aider, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien avec les pratiques craft, et faire du code en IA, générer du code avec de l'IA sans être à l'aise avec des pratiques craft, c'est s'acheter des très très gros problèmes pour le soi de dans 6 mois, vraiment des très très gros problèmes pour le soi de dans 6 mois, de ne pas réussir à faire des choses qualitatives. C'est comme tout code non qualitatif, sauf que là il est généré beaucoup plus vite, donc il y a plus de problèmes. L'IA aujourd'hui génère, dans le plus grand des calmes, du code parfaitement faux qui compile même pas, en te disant voilà la solution à ton problème. Tu dis mais ça ne compile pas. Il dit ah, autant pour moi, ça ne compile pas. Voilà la solution à ton problème. J'ai confiance dans absolument aucun des deux. Je ne peux pas avoir confiance. L'IA est un outil que je veux utiliser comme un outil qui me permet de gagner du temps sur plein de choses. Et il y a des choses sur lesquelles je vais garder ma valeur d'humain. Voilà ma réponse globale, je pense, à ce truc d'IA. C'est mon avis là, aujourd'hui, au moment où on enregistre. Peut-être que ça va changer dans quelques temps. On verra. Mon avis actuel, c'est celui-là. Je continue d'utiliser l'IA pour plein de choses sur lesquelles je trouve que c'est incroyable. J'ai écrit un livre. J'ai pas encore décidé si je le sortais, mais il est écrit. J'ai utilisé l'IA pour corriger toutes mes pages. Je suis dysorthographique au possible, je fais en moyenne 5 fautes par phrase. Là, il y a plusieurs personnes qui l'ont relu, dont une personne qui était professeur. Sur les 240 pages du bouquin, on a dû me relever 10 fautes, et c'est moi qui ai mal relevé le truc que j'avais mis dans l'IA. Donc ça, c'est incroyable. J'ai enfin un outil qui me permet à moi, Colin Damon, d'écrire sans faire de fautes. Génial. Ça faisait des années que j'en cherchais un outil comme ça, et qui, non content de corriger mes fautes, corrige ma ponctuation, le style, etc. C'est beaucoup plus puissant que ça, c'est incroyable, c'est trop bien. Très bien, mais c'est un outil. J'ai pas demandé à l'IA d'écrire mon bouquin. Par contre, des moments, bah, je vais lui demander des idées. Donne-moi 100 idées pour un atelier autour de ça. Et m'écris 100 idées. Il y en a 95 qui sont pas bonnes, c'est pas grave, j'en garde 5. Ça m'a pris une minute de générer ça. Ben, j'ai gagné vachement de temps. Mais ces 5 idées, c'est moi qui sais lesquelles 5 je garde. C'est moi qui sais comment je vais les creuser, comment je vais les animer. Et après, je peux lui demander, fais-moi un déroulé d'un truc sur ça. Il va me le faire, mais il ne va pas me plaire. C'est moi qui vais derrière avoir le jugement. L'IA va m'aider, mais c'est un outil, comme tous les outils. Ben, quand tu as un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Quand tu as une IA, tous les problèmes ont l'air d'être solubles par l'IA. Ben, pour moi, non, il y en a. C'est un mix des deux.
D'accord. Bon, LionCraft, on a essayé en fait de brosser, parce que je pense que si on continue sur le sujet de l'IA, il y a énormément de choses à dire, mais je pense que tu as essayé vraiment de très bien résumer tout ce qu'il faut en fait prendre en considération, surtout en fait cet aspect de vraiment considérer ça comme un outil qui va beaucoup plus nous aider, plutôt en fait que quelque chose qui va venir nous remplacer. Donc si on prend par exemple le cas de ton livre que tu es en train d'écrire, bon, je sais pas, peut-être quand tu vas le publier, on aura plus en fait de chances de savoir sur quoi il parle et tout ça. Si on revient en fait sur LionCraft, donc, c'est la deuxième édition cette année, donc déjà en fait je tiens à féliciter toute l'équipe organisatrice. J'ai Merci. Participé, c'était vraiment exceptionnel. Je ne sais pas, quelles sont en fait vos ambitions pour les prochaines éditions? Et aussi, en fait, durant son origine, pourquoi en fait vous avez choisi de créer un événement craft spécifique à Lyon?
Ok. Donc, LionCraft, à l'origine de LionCraft, il y a deux structures. IDEM, qui est ma société actuelle, qui s'occupe du contenant, de la salle, de la nourriture, etc., des comptes en banque, voilà. Et les Software Crafters Lyon, qui sont une association, un des cercles du CARA, donc le club Agile Rhône-Alpes, qui s'occupe du contenu. Les Software Crafters Lyon, on organise un événement par semaine depuis des années. On est, à ma connaissance, le seul groupe meet-up qui organise un événement par semaine et qui s'y tient. Et donc pour faire ça, on est devenu très 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 fort pour faire les choses très très au dernier moment. Mais on est vraiment à l'aise avec ça, ça génère de stress à personne, c'est notre fonctionnement normal. On a une vraie auto-organisation. L'association est vraiment auto-organisée. L'association tourne vraiment toute seule. On a tout un tas de règles, tout un tas de choses. On sait qui va faire quoi, à quel moment, qui est à l'aise sur quoi, qui on peut attendre sur telle chose, qui va zapper un truc, qui zappera jamais. On se connaît très bien. le groupe tourne, fonctionne incroyablement bien. Et ce groupe-là, ça faisait un moment qu'on voulait organiser une conférence, parce que bah, on organise un événement par semaine, on a une communauté, etc. Mais nous, on fait que des événements qui nous prennent pas longtemps à faire, parce que pour nous, c'est important, la régularité est importante. Donc on peut pas avoir des événements qui nous demandent beaucoup de préparation. Mais on avait cette idée de créer une conférence depuis longtemps. Et donc moi, quand j'ai rejoint IDEM, avant de rejoindre IDEM, pendant mon entretien chez IDEM, j'ai présenté la stratégie que j'avais et ce que je voulais créer chez IDEM. Et dans cette stratégie, donc on montait une offre informatique qui n'existait pas. Et on s'est beaucoup posé la question, on n'est pas connu en informatique, on a besoin qu'on nous identifie comme dans le dev. Et ben j'ai dit, voilà, nous depuis longtemps, on a cette idée de faire une conférence. Mais on ne veut pas s'occuper de la partie événementielle. Et Pascaline m'a dit, donc la fondatrice d'IDEM m'a dit, ça tombe bien, nous on en fait régulièrement et on s'en occupe de ça. Et en fait, Lyon Craft est né comme ça. Des crafters Lyon qui ont confiance dans le fait de pouvoir faire un contenu et de IDEM qui a confiance dans le fait de pouvoir faire un contenant. On a créé ça. Donc Lyon Craft, on l'a créé dans l'objectif de partager et de promouvoir la communauté locale. La première édition s'est passée au-delà de toutes nos espérances. On s'était dit, nous, si on vend 80 places, c'est incroyable, c'est inespéré. Je crois qu'on en a vendu 110 ou 120 et j'ai fermé les ventes et il y avait 148 personnes. J'ai vraiment fermé les ventes et il y a plein de gens qui voulaient des places et tout. Ça nous a dépassé, l'événement, et l'événement s'est trop bien passé. On se fait un dîner pour faire la synthèse de ce qui s'est passé. Et on se dit, ça s'est trop bien passé, mais c'était... On a eu quelques retours qui nous disaient c'était bien, mais c'était de l'introduction, c'était notre objectif. Et moi, habitué des communautés, je voudrais quelque chose de plus avancé. On s'est dit, ouais, nous aussi. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on fait plus gros, avec des talks qui ont des niveaux, des choses comme ça, comme on voit régulièrement, ou est-ce qu'on fait une autre conférence ? On a décidé de faire une autre conférence qui s'appelle X-Craft, qui a eu lieu le 3 novembre l'année dernière, qui n'est pas du tout la même conférence, enfin en tout cas pour nous. Parce que les participants, personne ne comprend la différence. Nous, ça n'a rien à voir en termes d'organisation, de charge mentale, de contenu. Pour nous, c'est vraiment deux conférences très, très distinctes. Et tout le monde me dit, c'est pareil, j'ai pas compris pourquoi ça s'appelle pas pareil. Donc, bon, ok, on prend le retour. On fait Lyon Craft cette année. Pareil, ça se passe. L'organisation se passe très, très bien. Des petits déboires, des petits trucs, évidemment, sinon c'est pas marrant. Mais très franchement, ça se passe très très bien. Comme c'est la troisième conférence qu'on organise sur celle-là, donc on commence à savoir les rôles, etc. Donc ça s'appuyait moins sur moi. Moi, j'avais que le rôle de redispatcher et j'ai redispatché beaucoup de tâches aux autres orgas pour moi avoir moins de charges parce que c'était un sujet. Ça a été un sujet X-Craft et ça a été un risque. J'ai redispatché le rôle. C'était beaucoup plus léger l'organisation pour moi de Lyon Craft que des autres sessions. Ça, c'est cool. Le but, c'est que ça devienne un événement, hein, toujours. Et donc on a fait ça pour promouvoir ça, pour que les gens se rencontrent, pour avoir cette conférence qui devait avoir lieu à Lyon très clairement, hein. Enfin ça manquait, on est un groupe hyper actif, on n'avait pas de conférence, on a créé cette conférence, on en est très content, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire pour la suite, pour répondre à ta question de velléité, de machin, on a une idée qui nous amuse beaucoup. Mais pour l'instant, c'est une idée. Donc déjà, Lyon Craft 2025, tout le monde me dit Lyon Craft 2025. Je ne sais pas, mais parce que je ne sais pas. En fait, nous, on organise au dernier moment. Le premier Lyon Craft, on a commencé à s'en occuper un mois et demi avant la conf. C'est-à-dire que c'est de l'événementiel. Dans le monde de l'événementiel, les gens nous prennent pour des fous. C'est-à-dire que la salle, ils nous disent, mais tout le monde réserve un an à l'avance. Il n'y a que vous qui réservez un mois à l'avance. Sur le Lyon Craft de cette année, 15 jours avant Lyon Craft, on se parle avec Pascaline, on dit « Ah, il faudrait peut-être qu'on valide le traiteur. » Ah oui, c'est dans 15 jours. Véridique. Ça n'existe pas dans l'événementiel. Mais nous, on est serein. On fait ça sereinement. Donc, Lyon Craft 2025, j'en sais rien, parce que vraiment, j'en sais rien. Là, tout de suite, à la soirée de rétro de Lyon Craft, qui était sur Twitch, il y a une idée qui a émergé, qui pour l'instant m'amuse beaucoup, et qui pour l'instant, j'ai pas trouvé de blocage. Si je trouve un blocage comme quoi c'est pas possible, elle se fera pas. Mais c'est une conférence la nuit, de 19h à 8h du matin. Un tout petit groupe, 30-35 personnes, avec très peu de talks, par exemple deux tracks et des talks de 4 heures. Il y a 4 talk dans la nuit. Comme il y a 35 personnes, on ne peut pas avoir 150 intervenantes. 4 talks de 4 heures sur des trucs niches où les personnes peuvent compter sur le fait de connaître les gens parce qu'on a commencé par dîner ensemble tranquillement. Les problématiques sur ce format-là où il faut qu'on y réfléchisse un peu, qu'on trouve des solutions, c'est sur la partie inclusivité, puisque ben, c'est d'autant plus dur sur ces formats-là pour les gens issus des minorités de se sentir en sécurité. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça, comment on peut faire ça. Il faut qu'on réfléchisse à qui peuvent être les 4 intervenantes et intervenants qui peuvent assurer ça. On a quelques idées, quelques noms, mais voilà, faut qu'on voit. Faut qu'on voit si le modèle économique est vaguement viable. Mais ça a l'air, de prime abord, ça fonctionne. Parce que sur un petit groupe comme ça, on n'est pas du tout sur les mêmes coûts. Et on peut vendre les places plus chères. Parce qu'on en a beaucoup moins à vendre. Et que c'est quelque chose qui est tellement différent que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour faire c'est presque une expérience comme ça. Donc ça, c'est l'idée qui nous amuse pour l'instant. Mais c'est une idée.
D'accord. En tout cas, merci. J'ai hâte de voir en fait l'évolution de l'idée, espérant qu'elle va se matérialiser. Bon, en parcourant, en fait, bon, je te suivais bien avant, donc je voyais qu'avant, quand tu travaillais chez Ipon, tu rédigeais énormément d'articles très techniques, mais ça fait un peu longtemps en fait que tu n'écris plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
J'ai toujours écrit, et quand j'étais chez Ipon, ben, j'écrivais sur le blog Ipon. Okay. J'ai écrit un livre blanc pour Ipon parce qu'il y avait toute l'infrastructure. Quand j'ai quitté Ipon, je me suis dit, bon, je vais continuer à écrire parce que j'aime toujours écrire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Mais j'ai la flemme d'administrer un blog. Genre vraiment, premier degré, c'est ça ma réflexion. Où est-ce que je peux écrire sur un truc où j'ai rien à administrer ? Ah ben, j'ai un compte LinkedIn. Parce que ben, j'ai dû chercher du travail dans ma vie une fois, donc j'ai un compte LinkedIn. Bon, ben, je vais écrire sur LinkedIn. Ben, je fais un post par jour sur LinkedIn et... il n'y a pas très longtemps, je regardais mes stats. Sur les 365 derniers jours, j'avais 1 100 000 vues de mes posts sur LinkedIn. C'est un chiffre qui ne rentre pas dans ma tête, qui est bizarre. Ouais. Parce que moi, j'écris parce que j'ai envie d'écrire. Donc, j'écris sur LinkedIn, comme j'ai envie, quand j'ai envie. Des fois, c'est quotidien parce que je les ai planifiés à l'avance. Des fois, il n'y a pas de post parce que c'est comme ça. Des fois, je fais des petites séries rigolotes. Des fois, j'écris d'autres choses. Aujourd'hui, LinkedIn est mon média où j'écris. J'ai ce livre qui est écrit et je n'ai pas encore décidé si je le finissais, si je le sortais ou pas. J'ai des relectures qui ont été faites, hein, elles sont terminées, des gens de la communauté l'ont relu. Je me laisse le droit de ne pas le sortir pour l'instant parce que j'ai un peu de travail pour le sortir. Et voilà, c'est une réflexion, il faut que je vois si j'ai envie de mettre mon temps là-dessus ou mon temps sur autre chose. C'est un problème, le temps, faut toujours choisir ce qu'on en fait. D'accord. Donc voilà, j'en suis là sur l'écriture, c'est ça mes médias aujourd'hui. Et aujourd'hui sur l'écriture, je crois que j'en suis à un stade où pour les choses techniques, les choses comme ça, j'ai plus envie d'accompagner des gens pour les écrire. J'ai plus envie que des gens apprennent à faire ça et que ça devienne un non-événement pour eux d'écrire des articles et de les aider à faire ça. C'est quelque chose qui m'intéresse plus que d'écrire moi sur du technique. Et moi, j'écris mes bêtises sur LinkedIn et je suis très content comme ça.
D'accord. Merci beaucoup en fait pour cette réponse par rapport à ça. En fait, pourquoi je l'ai dit, j'ai en fait lu quelques articles, c'était franchement intéressant, surtout merci. En fait la manière dont tu écris. J'ai hâte en fait de lire le livre, je pense que je vais vraiment l'aimer en espérant que tu le publieras. Au début, en fait, tu as essayé de parler de ton coaching, des formules en fait différentes. Est-ce que tu peux revenir sur ça brièvement en fait, non, pour les gens qui sont intéressés par cela? Tu as parlé de formules d'abonnement.
Oui, bien sûr. Donc sur la partie accompagnement craft, je vais avoir essentiellement deux formats proactif, donc sur les gens qui ont besoin que je porte le changement, que le changement soit porté, qui n'ont personne pour le porter. Donc pour porter ce changement, la formule, elle est assez simple. C'est des jours, c'est ce dont on est habitué en ESN. Ce n'est pas une mission à temps plein. Je ne le fais pas à temps plein parce que c'est trop dur pour les équipes. C'est en fonction du budget et de la taille de l'équipe, ça peut aller de une demi-journée par semaine à 3 jours par semaine. Je n'ai pas essayé plus encore dans une très grosse équipe, mais pourquoi pas. Mais j'ai déjà fait une demi-journée par semaine et on a vraiment réussi à apporter un changement profond dans un service d'une vingtaine de personnes. Parce que c'est des changements qui ne se font pas en une semaine, encore une fois. Donc ça, bah, c'est un modèle de facturation qui est assez classique. Hein. C'est de la facturation à la journée. Je dis, ma journée, elle vaut tant. Tu me prends tant de jours. Bah, c'est une multiplication. Et voilà. Et donc là, c'est proactif, c'est moi qui porte le changement. Bien sûr, j'ai besoin de sponsoring, bien sûr, j'ai besoin de l'adhésion des clients, bien sûr, j'ai besoin de l'adhésion des managers, bien sûr, j'ai tous les problèmes de résistance au changement, bien sûr, on construit et on co-construit le plan ensemble. Donc, je vais commencer en faisant des interviews, en proposant des choses, en identifiant des axes, en travaillant avec mes sponsors chez le client, etc. Évidemment, mais c'est une mission d'accompagnement, on va dire, assez classique, entre guillemets. Et j'en ai fait plusieurs. Il y en a que j'ai réussi, il y en a que j'ai échoué. C'est des choses qui sont suffisamment difficiles pour... J'ai pas encore la recette pour le réussir à 100%. Je la cherche, mais je l'ai pas encore. Et une autre offre qui est un abonnement. C'est-à-dire que pour une somme mensuelle, toujours la même, on peut me consulter à volonté. J'ai un délai de réponse garanti. Alors ça veut pas dire que je résous le problème, ça veut dire que je réponds au message et que je reviens vers les gens dans 48 heures ouvrées, puisque comme c'est des tâches de conseil, c'est pas une surveillance de prod, c'est pas, je vais pas réparer la prod, je vais pas produire dans cette offre là, je produis pas. Sur mon offre classique de transformation, je peux produire au besoin, sans aucun problème, je peux produire avec l'équipe, je peux moi faire du code. Sur l'offre d'assistance en abonnement, je ne produis pas. C'est une question, on m'appelle, tiens Colin, j'ai cette question, j'ai ce problème technique. Colin, on aimerait faire une session d'ensemble programming sur ce sujet, il y a un point de design qu'on n'arrive pas à tacler, est-ce que tu peux être là ? Ouais. Est-ce que tu peux animer ça ? Tiens, on a un problème sur cette appli, à chaque fois qu'on change à un endroit, ça casse à l'autre, c'est un enfer, on vient encore d'y passer la nuit... est-ce que tu peux essayer de regarder, voir où on en est, proposer une stratégie ? Oui, mais je ne déroulerai pas la stratégie. À chaque fois qu'on fait une modif dans l'appli gérée par l'équipe A, il faut faire une modif dans l'appli gérée par l'équipe B, ça nous pose problème, enfin, c'est pas bon, il faut synchroniser les livraisons et tout. Est-ce que tu peux essayer de voir pour guider le découpage, etc. ? Ouais, je vais aider les équipes à le faire. Mais dans cette offre-là, je ne le fais pas moi. Dans l'offre d'accompagnement craft, oui, je peux le porter, je vais être proactif. C'est ça la grande différence. Et c'est ça les deux offres sur le craft. Et après, j'ai bien sûr cette offre à laquelle on est plus habitué. On paye une prestation, quelqu'un pour faire des choses. Je viens avec mes approches, mon expérience, ma manière de faire. Je m'adapte, bien sûr, à ce qui est en place. Si on me dit... je suis pas là, j'apporte pas de changement si c'est pas nécessaire. J'ai vraiment une vision extrêmement pragmatique. Mon objectif, je l'ai dit beaucoup de fois, mais je vais le redire, c'est d'apporter de la valeur en prod. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre service aux gens et d'apporter de la valeur en prod. Donc, je ferai ce dont je suis intimement persuadé qui est la meilleure manière pour apporter de la valeur en prod.
D'accord. Du coup, en fait, pour les gens qui sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent en fait en savoir davantage ? Il y a un site web particulier ou bien...
Mon LinkedIn, mon mail, colin.damon@idem.fr, mon LinkedIn en lien...
D'accord, donc on va essayer d'ajouter ça dans la description du podcast. Merci beaucoup pour ton temps, Colin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
Eh bien, merci à vous pour le temps, pour l'occasion, pour le soutien sincère que vous apportez à Lyon Craft et à X-Craft, que vous avez apporté pour la 3e édition. Kaibi, on a aujourd'hui un partenariat qui est extrêmement élégant. Entre nous et c'est vraiment 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 plaisant de travailler avec des partenaires comme ça, je suis sincère quand je dis ça. On a eu un petit coup dur lors du dernier Lyon Craft et Kaibi a vraiment 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 répondu présent pour nous aider sur ça, donc merci beaucoup vraiment sincèrement pour ça, pour ce que vous faites pour le craft sur Lyon puis pour l'interview.
D'accord. Une fois de plus, merci beaucoup. C'était vraiment un échange très riche. J'ai énormément appris. Au plaisir de te revoir dans d'autres meet-ups ou bien dans d'autres conférences.
D'ailleurs, si vous voulez qu'on se croise, mes prochaines conférences où je serai, Alpecraft, si c'est 7 juin de tête, Tech and Wine, là c'est moi qui... Enfin, je participe au programme d'un des tracks le 18 juin. Je suis à DDD Europe, c'est en mai, j'ai oublié les dates. Mais j'ai pris mon train, je suis fier de moi, je ne m'y prends pas au dernier moment. Voilà les conférences où j'ai mes places et où j'ai prévu d'aller, donc on peut se croiser là-bas. Si
D'accord. Merci beaucoup. Je suis Ali Ibrahim, merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Because.
podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.